réplique, la langue française, état des lieux, avec Alain Borère et Jean-Michel de la Comté. Les anciens disaient « nos ancêtres ». Nous disons « la postérité », écrivait Joubert au début du XIXe siècle. Quelques décennies plus tard, en 1872 exactement, Flaubert nuançait cette foi moderne en l'avenir intelligent dans une lettre à George Sand. « Car j'écris, non pour le lecteur d'aujourd'hui, mais pour tous les lecteurs qui pourront se présenter tant que la langue vivra. » Nous sommes en 2018. J'ai lu l'ouvrage d'Alain Borère, « De quel amour blessé ?» et celui de Jean-Michel de la Comté, « Notre langue française ». Et la question qui me vient irrésistiblement aux lèvres est la suivante. La communication règne, on s'exprime, on s'épanche, on échange comme jamais, mais la langue, au sens de Flaubert, respire-t-elle encore, Alain Borère ?
Une belle phrase de Flaubert se gueule. Il faudrait l'entendre aussi chuchoter. Mais en 1872, d'autres grands auteurs comme lui pensent la même chose. C'est-à-dire que si la langue respire, c'est une sorte de métonymie, c'est-à-dire un mammifère. Et cette langue vivante se meurt. Alors qu'est-ce qui se meurt ? C'est non pas la question de la communication que vous avez bien fait de distinguer de la langue. C'est la langue française. Pas seulement la langue, on ne cessera de parler, mais la francité de la langue. Il s'agit avant tout de préciser ce que l'on peut appeler la francité de la langue et qui échappe en grande partie aux linguistes d'ailleurs. En quoi, par exemple, la langue que Flaubert et tous ses contemporains, Victor Hugo, Arthur Rimbaud, manient et portent à sa perfection, en quoi est-elle spécifique, particulière ? Moi, je crois qu'il faut considérer que les langues se distinguent les unes des autres, pas tant par les vocabulaires que par leurs idéalisations, c'est-à-dire par ce que l'on pourrait appeler leurs projets. Quel est le projet de la langue française ? Mais vous savez, au sens où les projets nous dépassent, où nous ne les connaissons pas, en même temps, ils nous font agir et parler. Je crois que le projet, une chose principale à distinguer, je pose ceci, que la langue française est de toutes les autres langues, qui se prononcent toutes et qui prononcent toutes ce qu'elles écrivent, la seule qui ne prononce pas tout ce qu'elle écrit. Attention, bien sûr, si je dis « to know » en anglais, je ne prononce pas le « k », mais en français, le « temps » PPS marque son étymologie aussi. C'est pas ça le problème. C'est que ce qui ne se prononce pas a valeur sémantique. Ils entrent. Je vais entendre le « s » par un fil de rasoir pour marquer le pluriel, et je ne fais pas entendre le « ent » pour l'indiquer de même. Autrement dit, il y a, dans la langue française, l'écrit est sous-titré en permanence. Il n'y a pas d'oral. On peut dire qu'il y a un oral écrit. Et que le livre est présent, le livre est co-présent à la parole. D'où le rapport à la littérature.
Oui, le rapport à la littérature. Mais, alors d'abord, je pense que si les linguistes, comme vous dites, ne s'intéressent pas à la francité de la langue, c'est qu'en effet, pour eux, la valeur n'importe pas. Ils mettent entre parenthèses la question de la valeur et tous les usages se valent en quelque sorte, disons pour la plupart des linguistes. Mais vous dites ils entrent. En effet, c'est une spécificité française, mais celle-là demeure. Celle-là demeure. Les gens disent toujours ils entrent. Alors, où voyez-vous que la langue a peut-être cessé de vivre, Alain Borère ?
En ce point précis qu'il faut décrire. Je lui donne un nom. Curieusement, ça n'a pas été désigné et caractérisé, cette relation de l'écrit à l'oral en langue française, ENT, qui ne se prononce pas. Je l'appelle le vidimus. C'est un terme de notaire qui vérifie, nous vérifions. Alors, le vidimus, c'est cela qui est en ce moment même percuté par les nouvelles technologies. Lisez, il faudrait que Flaubert, en 1872, ait la première idée, ainsi que Rimbaud et Victor Hugo, qui pensaient comme lui à ce moment-là, de ce qui se passe dans la langue française aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Regardez si ENT existe, et regardez encore si l'éducation nationale prend soin de les faire respecter et de les faire entendre. Si la grammaire est négociable, comme disait une fameuse militante de l'illettrisme. La grammaire est négociable? Non, c'est la grammaire qui pense, et c'est la grammaire qui pense spécifiquement, et elle pense en langue française de telle façon que cette relation de l'oral à l'écrit, que j'appelle le parle-écrit, est fondamentale dans la littérature. Pourquoi? Parce que elle permet de mettre au point sa propre idée en permanence.
Alors, Jean-Michel de la Comté. La langue respire-t-elle encore, la langue au sens de Flaubert?
Moi, je prendrais l'affaire un peu différemment, si vous voulez. C'est-à-dire que, sans du tout être opposé, d'ailleurs, à ce qui vient d'être dit, tant s'en faut, j'ai parti d'une remarque, quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Si vous savez que, depuis Jules César, il y a eu 80 générations. 80, c'est pas beaucoup.
Non, c'est pas beaucoup.
Voilà, 80. Or, je me dis... Et dans deux générations, c'est-à-dire un 40e, où en sera notre langue? Est-ce qu'elle continuera? Alors, de quelle langue parle-t-on, naturellement? Est-ce qu'elle continuera à être notre langue? Dans deux générations, ça va vite. C'est en même temps très long et très court. Et moi, j'ai le sentiment, qui est partagé, je crois, par pas mal de gens, que la langue respire peu. Mais pourquoi? Parce qu'elle est uniforme. Elle est, ou en tout cas, elle a été l'objet d'un processus d'uniformisation contre lequel, moi, je m'élève, notamment sur le plan de la littérature. Je suis très frappé du fait que la littérature que je dirais visible aujourd'hui est globalement, le terme est un peu fort, mais je le pense quand même, globalement rabougrie. Et donc, une langue qui ne respire pas est une langue qui se contracte et qui meurt. Et que notre langue, en tant que telle, puisse mourir, ça me semble évident.
Oui, c'est ce que dit Flaubert. Donc, la langue meurt, c'est le vocabulaire qui se rétrécit, la syntaxe qui s'affaisse. Est-ce que vous avez des symptômes? Est-ce que vous avez des exemples à donner de ce déclin? Jean-Michel de la Comté.
Je dirais encore une fois, on peut être tout à fait hostile à ce que je dis, mais c'est une conviction profonde, à savoir que, comme symptôme, oui, il suffit de lire la plupart des livres ou des romans, si vous voulez, qui sont sur la place publique, en tout cas, qui sont mis en valeur. Il suffit d'écouter, bien évidemment, le discours des général des médias, il faut le dire. Naturellement, j'ai besoin de le souligner, il suffit de s'intéresser un tant soit peu à la langue des réseaux sociaux. Il s'agit également de s'intéresser un tant soit peu à la langue écrite. Et enfin, et je dis enfin, c'est pas limitatif d'ailleurs en vérité, il suffit d'avoir un peu enseigné pour s'apercevoir à quel point l'écrit de la langue, l'écrit pas seulement l'oral, donc l'écrit de la langue écrite est dans un état de déshérence fréquent qui est tout à fait catastrophique.
Donc là-dessus, vous êtes d'accord l'un et l'autre?
Oui, il y a faute généralisée. Il faut ajouter même les politiques et les discours de l'Assemblée nationale en ce moment qui sont d'une grande faiblesse et pauvreté. Alors la question principale, c'est le fait qu'il y a à mon avis deux causes majeures. La première, c'est une rupture médiologique, pour dire comme Régis Debray, c'est-à-dire le passage de la vidéosphère à la graphosphère. Et dans ce cas, on passe dans la dimension d'une langue dans laquelle tout se prononcerait. Ce que la langue française perd dans ce cas-là, c'est son logiciel, c'est-à-dire la capacité de mettre au point sa propre pensée, disais-je, le vidimus, mais encore le fait que le vidimus, alors ça c'est très important me semble-t-il, est une sorte d'anthropologie. C'est-à-dire, si je prends soin de mettre au point ma propre pensée et de la caractériser avec précision, par la grammaire, par ENT par exemple, dans ce cas je présente une certaine idée de mon interlocuteur. Et cette idée disparaît elle, dans le fait que, quand même temps que la précision, parce que la précision elle est dans la grammaire, pas seulement dans le vocabulaire. Le vocabulaire français est magnifique, de précision, émoustillé, épargné, ce sont des mots. Mais les langues ont toutes, peut-être on peut dire, leur précision, pas la question grammaticale. Et là, la question grammaticale, c'est le logiciel de la langue française.
Alors justement, là, ça nous amène à la question de l'enseignement de la grammaire. a été progressivement marginalisé et même éliminé. Peut-être va-t-il revenir, puisque le nouveau ministre ne veut pas continuer à réformer l'école, mais la rebâtir. Simplement, on peut s'interroger sur les raisons de cette disparition de la grammaire. Et cela vient, me semble-t-il, d'une sorte, enfin c'est une hypothèse que je vous propose, d'une sorte d'emballement des droits de l'homme, et notamment de l'idée d'égalité. C'est-à-dire, la littérature n'a plus aucune prééminence sur les autres productions littéraires, et tous les individus sont naturellement égaux, aptes donc d'entrée de jeu à penser par eux-mêmes. Et je voudrais vous citer ici un extrait du livre d'Hélène Merlin-Cajman, « La langue est-elle fasciste ?» Et elle dit ceci, « Les nouveaux pédagogues sont obsédés par cette idée, l'école doit devenir le lieu d'une redistribution du pouvoir, donc de la parole jusque-là confisquée par un pouvoir dont le premier représentant au sein de l'institution est l'enseignant lui-même. Sans cesse, il faudra étouffer l'adultité enseignante des professeurs, leur pulsion magistrale. Il faudra faire taire les enseignants et rendre la parole, la merveilleuse parole spontanée, aux élèves. » Et il me semble en effet qu'une des tendances de l'école, ou d'une certaine pédagogie, c'était de donner la parole avant de donner la langue. Voilà. Au nom justement de la spontanéité des élèves, privilège de l'oral sur l'écrit, et cette idée, voilà, les élèves ont quelque chose à dire, leur parole doit être libérée. Donc un changement aussi du concept d'émancipation, on s'émancipe progressivement, l'émancipation n'est plus un objectif, un but, un idéal, la liberté est donnée d'entrée de jeu, et donc il faut libérer une parole jaillissante de tous les carcans, et notamment celui de l'orthographe, notamment celui de la belle langue, etc., etc. Jean-Michel de Dacomté.
Ça me semble tout à fait pertinent. La notion de jaillissement, de spontanéité, et sans doute aussi est à relier avec une forme de primat du présentisme aujourd'hui, où ce qui va advenir et ce qui est advenu existe, n'a plus tellement droit de citer. Une espèce de présent comme ça, du jaillissement. Et effectivement, moi je suis très frappé par le fait que, bien évidemment, la grammaire, la langue et la mémoire, ce sont d'une certaine manière des corsets. Et c'est ressenti comme des corsets ou comme des carcans, comme des impossibilités de dire. Et je crois que c'est assez lié avec un mouvement qu'on connaît bien et qui, c'est une banalité de le dire d'ailleurs, avec un individualisme qui fait que ce qui part du bas, si je puis dire, est plus légitime que ce qui tombe du haut. Et or, évidemment, la langue des maîtres, c'est-à-dire finalement, dans le domaine littéraire, la langue des grands auteurs, par exemple, est une langue qui, en quelque sorte, aujourd'hui, n'a plus de légitimité majeure. Ce qui est important, c'est ce qui va surgir de soi pour s'exprimer. Donc, je suis tout à fait en accord avec ce type, parce que disait Hélène Merlin, avec ce type d'approche où il faut une donnée en quelque sorte anthropologique et sociologique pour expliquer le phénomène.
Alain Borel.
Oui, alors ce qui est en cause, c'est une ignorance profonde de la langue française, et à la place de quoi il y a une idéologie, c'est une vision idéologique. Mais c'est une erreur, cette vision idéologique, bien sûr, parce qu'elle dissocie le sujet de la langue. C'est une sottise. Or, le problème principal, c'est d'entendre d'abord et de faire entendre aux jeunes gens, précisément pour qu'ils puissent s'exprimer et se libérer, de faire entendre la langue française. Et alors, il y a précisément dans la langue française les ressources que l'on veut absolument et qu'il faudrait donner aux jeunes gens et transmettre, qui sont celles de liberté. Voilà en quoi, si l'on fait entendre la langue elle-même, en quoi porte-t-elle la liberté, la langue française? En cela que, par exemple, elle donne le verbe tout de suite. Le verbe, c'est le roi de cœur. si je le cache dans mon dos, je peux, comme font bien d'autres langues, c'est un autre choix, le donner à la fin de ma phrase.
C'est l'allemand.
Subordonner l'allemand, le turc, toutes les langues ouralo-altaïques, et soumettre en quelque sorte mon interlocuteur. À partir d'environ 5-6e siècle, le français qui commençait quand même, quelque chose qui se structure dans cette direction, choisit de, c'est un choix collectif, c'est pas un grammairien. Et d'ailleurs, c'est de la grammaire incorporée, bien sûr. Donner le verbe tout de suite. Autrement dit, si je donne le verbe tout de suite, je considère que mon interlocuteur peut m'interrompre. Par conséquent, il est aussi intelligent que moi, et je présuppose l'espace de la, je dirais, démocratie, en tout cas, de l'échange, et de l'échange respectueux. Regardez, une autre chose, il faut faire entendre aux enfants, à transmettre, et qui a été transmis, c'est le fait que, qui a été transmis jusqu'à présent, c'est le fait que, par exemple, il y a équilibre des consonnes et des voyelles. Je dis bien qu'il faut entendre la langue d'abord et pas l'idéologie. L'équilibre des consonnes et des voyelles est une beauté, une grande beauté. Ce qui fait de la langue française ce que Nietzsche en disait, cette petite musique de chambre. L'équilibre des consonnes et des voyelles implique qu'il n'y a pas d'accents régionaux. Il y a des intonations, mais il n'y a pas d'accents régionaux. Vous pourrez parler la langue française dans le Vanuatu en Belgique ou en Guyane de la même façon sans accentuation. C'est-à-dire que c'est un individu, disons, universel. L'universalité de la langue, elle est là, déjà, qui parle. Et cela doit être enseigné, et il faut le faire entendre par la langue. Et c'est cela qui, seulement, peut la faire apporter ce que l'on souhaite, la liberté et l'expression.
Alors, pour donner quand même un exemple de ce rabougrissement dont vous parlez, Jean-Michel de la Comté, parce que si on reste trop abstrait, l'auditeur peut se dire, mais qu'est-ce qu'ils ont? C'est des vieux schnocks qui s'enflamment alors que les gens continuent à se parler et que la langue évolue normalement. Eh bien, vous citez le Club des Cinq, et j'ai été très frappé par l'exemple que vous donnez. Vous dites de manière générale que la littérature jeunesse inflige un véritable tourment à la langue, tout s'y concentre pour affadir la langue, la mutiler, lui confisquer ses charmes, la ramener dans le circuit du familier, pauvre vecteur d'un message décharné, rien de plus. Exemple du Club des Cinq, ça m'a touché parce que j'étais enfant lecteur du Club des Cinq. Alors, vous dites l'édition 1955 d'un des volumes, et voilà comment il est traduit. Puis ce fut le matin du départ. Dans une atmosphère de bruyante allégresse, les élèves de Clairbois achevèrent de boucler et d'étiqueter leurs valises. On attendit ensuite l'arrivée des autocars qui devaient transporter les pensionnaires et leurs bagages. Les minutes semblaient interminables. 2006, arrive le matin du départ. Dans un brouhaha incessant, les élèves de Clairbois achèvent de boucler leurs valises avant de se précipiter dans les cars qui les emmèneront à la gare. Et vous avez d'autres exemples ainsi. Et là, on voit, en effet, ce rabougrissement à l'œuvre, Jean-Michel de la Comté.
Oui, alors ça, c'est tout à fait remarquable. C'est terrifiant. C'est-à-dire qu'on passe du langage qui, pour les enfants, a quelque chose de magique. C'est un autre monde qui s'ouvre en quelque sorte. Et là, et qui est respecté d'ailleurs, parce que c'est du langage écrit en vérité dans la traduction de 1955. On passe en 2006 à une langue qui n'a presque plus aucun rapport avec l'écrit et qui est purement orale. Et c'est la langue de tous les jours. C'est-à-dire qu'on désenchante. Pour les jeunes lecteurs, on désenchante le monde. Et là, je trouve que c'est un crime contre l'esprit, et c'est même un crime, d'une certaine façon, contre l'imagination des enfants. Et donc, contre les futurs citoyens, c'est-à-dire ceux qui vont participer à l'aventure commune. C'est grave. C'est grave. C'est pour ça que, Alain Finkielkraut, je pense qu'on aurait tort de dire que nous sommes des vieux schnocks, qui que. Et d'ailleurs, j'ai apporté deux choses à cet égard. Un regret et une espérance. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé, vous savez peut-être, qu'il y a une chanson de Gainsbourg, de 1967. Le titre, Un poison violent, c'est ça l'amour. Et vous savez qu'il est la poutre de cette chanson, le refrain, c'est un texte de Bossuet. C'est quand même extraordinaire, 67. Et c'est cette phrase que je cite rapidement parce que je la trouve très belle. Qu'est-ce autre chose que la vie des sens qu'un mouvement alternatif qui va de l'appétit au dégoût et du dégoût à l'appétit? C'est du Bossuet, il y a 50 ans. Bien. Alors, on va dire, oui, mais alors, la cause est perdue. C'est-à-dire, eh ben non, je vais opposer à ça, et par rapport à ce qui s'est passé avec le Club des Cinq, comme s'il y avait la résurgence d'un besoin de langue. Et je vais donner un exemple très précis. Joestar, qui on connaît Joestar, c'est pas exactement le représentant de la haute littérature académique.
Hein. Alors,
bon, Joestar a un a une qu'on dirait une c'est pas une émission d'ailleurs. Il déclame une déclamation à la dans un documentaire, je crois. Où il déclame Robespierre, Hugo, Aimé Césaire, Tocqueville. C'est-à-dire qu'il retrouve, il manifeste par là, ce rappeur, il manifeste un besoin d'une haute langue qui semble manquer même aux jeunes gens, ou aux gens plus ou moins jeunes en tout cas, de, pour aller vite, des cités et de la jeunesse en général. Donc d'un côté, il y a une perte, parce que Gainsbourg et Bossuet, c'est assez peu fréquent dans la chanson d'aujourd'hui, et en même temps, il y a ce mouvement...
Un nouvel espoir. Alors, je citerai encore un dernier exemple du Club des Cinq, parce que, vous voyez, ce dont on prive les enfants,
oui.
Édition 1955, « Bientôt, les enfants virent déboucher la locomotive, coiffée d'un panache de fumée. » Édition 2006, « Bientôt, les enfants voient déboucher le train. » Élimination du passé simple, oui. Qui doit disparaître, élimination aussi de la métaphore.
Absolument.
Ni passé simple, ni métaphore, effectivement, on prive les enfants de quelque chose d'absolument capital. Alain Borer.
Oui, alors, la question, me semble-t-il, essentielle, c'est celle de la communication par laquelle nous avons commencé, c'est-à-dire le fait que la langue n'est pas de l'ordre de la communication. Et la langue française, principalement, est d'abord s'entend par sa beauté. Et oui, parce que la langue française, il faut dire d'abord, avec François Cheng, que c'est un chef-d'œuvre de l'histoire de l'humanité. Elle ne s'entend que par la beauté. Et figurez-vous que même la beauté, voilà ce qu'il doit être enseigné, ce que nous devons enseigner, la beauté est supérieure à la grammaire. Nous devons compenser des hiatus par des consonnes et bref, préserver d'abord la beauté. C'est pourquoi la question seule de l'avenir nous importe. Et en face de nous n'avons pas une avant-garde, nous avons au contraire des gens qui ne transmettent plus rien et qui vont à l'abîme. La beauté, l'avenir dans la langue est suivant désormais. Vous savez où il se passe? Il se passe dans le Nouveau-Brunswick en Acadie, c'est-à-dire le Chiac. Nous allons vers le Chiac. Vous savez ce que c'est le Chiac?
Non, pas du
eh bien,
tout, mais vous allez le dire tout de suite.
C'est un état de langue française en voie de pourrissement chez les Acadiens du Nouveau-Brunswick, par lequel il y a environ 50% de mots anglais à l'intérieur de mots français. Et la grammaire française disparaît. Et alors le Chiac est une phase finale, parce qu'il ne pourra pas se transmettre. Alors là, on retrouve les caractéristiques que vous dites, c'est-à-dire l'oralisation générale, et puis la fin des temporalités. Ce qui était très beau dans la langue française, c'est les temporalités. Si vous apprenez la langue française depuis, par exemple, des langues asiatiques, vous êtes stupéfait de voir qu'il y a des positionnements du sujet dans la langue, et que, par exemple, le passé simple est un passé à l'intérieur de l'imparfait, ce qui rend la possibilité de la fiction et aussi de la précision de sa pensée, et par conséquent, la fin des temporalités, pas que le passé simple, mais aussi les subjonctifs depuis une cinquantaine d'années, font que la langue française se met au niveau de toutes les autres en s'appauvrissant et en ressemblant de plus en plus au chiac, c'est-à-dire à sa phase pourrissante avec 50% de mots anglais, un par jour.
Alors, on y viendra, mais ce que vous dites m'évoque précisément Bossuet. Une phrase de Bossuet, citée par Barthes dans son dernier séminaire, La préparation du roman, où il mentionne également la phrase de Flaubert. Alors, voici celle de Bossuet. « Des peuplades de l'Orénoque n'existent plus. Il n'est resté de leur dialecte qu'une douzaine de mots prononcés dans la cime des arbres par des perroquets redevenus libres, comme la grive d'Agrippine gazouillait des mots grecs sur les balustrades des palais de Rome. Tel sera tôt ou tard le sort de nos jargons modernes, entendez le français classique, débris du grec et du latin. Quelques corbeaux envolés de la cage du dernier curé franco-gaulois dira, du haut d'un clocher en ruine, à des peuples étrangers nos successeurs, agréez les accents d'une voix qui vous fut connue, vous mettrez fin à tous ces discours. » Voilà. Et vous, Jean-Michel de la Comté, vous citez la phrase connue de Stendhal, sur la beauté qui est une promesse de bonheur, et vous dites, en écho justement à ce que vient de formuler Alain Borer, la laideur est une promesse de malheur. Oui. Jean-Michel de la Comté.
D'ailleurs, je reprends ça de Rem Sampran, le fils de Georges. C'est cette idée que je crois qu'il est tout à fait légitime et même indispensable de rapporter la question de la langue à la question de la beauté. Ça me semble, vous avez tout à fait raison, ça me semble tout à fait indispensable. Je suis très frappé, alors chacun ses obsessions. Moi, je suis très frappé par une invasion de la laideur sous toutes ses formes. Je suis très sensible, je ne suis pas tout à fait le seul d'ailleurs, à la question du silence et du bruit.
Il y a, oui, vous avez écrit d'ailleurs.
Oui, j'ai écrit là-dessus. C'est une question qui m'importe. Et je pense qu'il y a un lien très fort entre cette permanence du bruit. Du bruit, je ne dis pas des bruits, du bruit en général, comme élément néfaste par rapport au silence intérieur, à la nécessité d'une liberté intérieure. Le bruit, comme ça. Et je pense qu'il y a un lien très très fort entre le bruit global qui nous enserre, qui nous enveloppe, qui nous aliène, et la laideur qui s'étend, et cette langue, notre langue, la langue en général de qualité, notre langue en particulier, d'exigence, tant soit peu, cette langue qui s'affadit, qui dépérit en quelque sorte. Moi, j'ai une petite idée là-dessus que je vais vous soumettre très rapidement. Je pense que notre langue, je pense qu'il y a un changement sonore fondamental depuis à peu près un siècle. Vous parliez de Flaubert, il se plaint du bruit de l'industrie dans un de ses textes, dans une lettre à Louis Collet, je crois. Eh bien, l'environnement sonore, je pense, qu'il a tendance à faire que la langue elle-même, d'où son abaissement d'ailleurs, se confond ou se perd dans l'ensemble des bruits. C'est peut-être étrange à dire, mais je crois que oui. Et avec la montée en puissance de la musique amplifiée, de l'électronique, où nous sommes environnés de bruits nouveaux par rapport à l'histoire de la langue, je pense, je parlais tout à l'heure des générations, bah peut-être que tout ça, ça va s'accélérer encore, et que la langue, en tant que système de phonèmes et de sons et d'ondes sonores, va être engloutie, exactement. Va, d'une certaine manière, se dissoudre dans ce vacarme généralisé. Ou en tout cas dans ce bruit généralisé. C'est une crainte que j'ai. C'est pour ça que le rôle de la littérature, de la haute littérature, de l'écrit est tellement important. C'est une force de résistance nécessaire pour que nous restions des humains.
Alain Borer.
Oui, certains linguistes distinguent bruit et information, mais la question de l'oreille fondamentale, et ce très beau livre de Remy, on dit Remy sans l'accent aigu, de Remy de Gourmont en 1905, l'esthétique de la langue française, propose un concept essentiel, c'est celui de l'oreille. Il y a une oreille collective, et cette oreille collective émet... cette fois, c'est un autre linguiste, c'est Fonagy qui le pense, sur sur une bande passante particulière. La langue française émet à partir de 800 jusqu'à 1200. Et cette bande passante est celle de est médiane. C'est la preuve, entre parenthèses, que la langue française a été parlée à parts égales entre les hommes et les femmes. Il n'y a pas de femmes qui parlent en dessous de 800. Et les aigus sont censurés, comme toutes les langues doivent censurer, pour rester dans leur bande passante. D'où, là, le fait que les poètes émettent de la même façon depuis Dubelet jusqu'à Éluard, et qu'il y a cette petite musique de chambre que j'évoquais à propos de Nietzsche, qui se perpétue. Alors, la véritable grande chose qui se passe en ce moment à mes yeux et à nos oreilles, c'est qu'il y a ce que j'appellerais un réchauffement sémantique. Et ce réchauffement sémantique n'est pas moins grave que l'autre, parce qu'il entraîne la disparition de toute une oreille collective et par conséquent d'une façon de voir le monde, de l'entendre et de le dire. Et ce réchauffement sémantique est aspiré par principalement l'anglo-américain qui émet sur un autre plus haut dans les aigus et dans les basses, et que nous préférons, nous sommes tenus, là il y a une véritable part d'autocolonisation, parce que le colonisateur, la langue du maître, nous tient par l'oreille.
Alors, nous parlerons tout de suite de cette colonisation par la langue du maître. Un mot encore sur la beauté. Peut-être que la langue se dissout dans le bruit, mais je pense qu'il y a aussi aujourd'hui une indifférence générale à la beauté. Je me souviens d'un livre de Joseph Brodsky sur Venise. Il disait que Venise met ceux qui la visitent au défi. Parce que c'est tellement beau qu'il faut essayer d'être à la hauteur. Les touristes, aujourd'hui, n'ont plus du tout ce souci. Ils viennent en pantacourt, en bermuda, en tongs, en t-shirt historié, etc. Et de même, au théâtre. On ne se met plus sur son 31 au théâtre. On y vient comme on est. Donc l'aisance se substitue à l'élégance. Et j'ai le sentiment qu'il se passe exactement la même chose dans la langue. Si vous voulez. On la décravate. On ne porte plus de cravate et on décravate la langue. Vous dites, Jean-Michel de la Comté, que les apocopes, aujourd'hui, si vous voulez, se prolifèrent. En effet, l'intox, la com, la sécu, l'actu, les mots sont littéralement...
Sont
hachés, oui. Et puis, se laisser aller, cette facilité, se retrouve aussi dans la familiarité des termes. C'est-à-dire, on ne travaille plus, on bosse, on ne lit plus des livres, mais des bouquins. Ce qui est ennuyeux devient chien, et ce qui est admirable, super sympa. D'ailleurs, super, adverbe ou adjectif, est un grand liquidateur de toutes les nuances. Mais j'ai l'impression que c'est un rapport général à la beauté qui affecte aussi la langue. Jean-Michel de la Comté.
Pour moi, c'est une conviction profonde et d'ailleurs un peu désespérante. Parce que c'est une question absolument fondamentale. Parce qu'elle a des... Effectivement, il y a un enlaidissement de la langue, une désinvolture croissante, comme si c'était quelque chose d'inessentiel. Et dans le même temps, on dit « Ah, c'est extraordinaire, une société dans laquelle les incivilités sont extrêmement fréquentes. » Et on ne fait pas le rapport entre les deux.
Oui.
Hein, c'est quand même extraordinaire. Il y a une incivilité, des incivilités envers la langue. C'est pour ça, moi, je parle même d'une malbouffe de la langue. C'est-à-dire de telle façon que la langue devrait, et la beauté elle-même, devrait faire partie d'une écologie générale, pour autant que l'écologie est aussi un rapport avec l'intégrité de chaque individu. Et pas seulement l'intégrité physique, mais l'intégrité intellectuelle et sa capacité à s'adresser à autrui. Et donc la question de l'incivilité de la langue, des incivilités, du gâchis de la langue, et d'autre part de la laideur, me semble, et donc de la laideur sociale, des rapports humains, les rapports humains peuvent être laids. L'emploi d'une langue peut être laid. Et qu'on ne fasse pas le rapprochement entre les deux me stupéfie.
Oui, alors Alain Borer, je voudrais qu'on revienne justement maintenant à ce problème de la colonisation. Parce que c'est un des thèmes qui parcourt votre livre « De quel amour blessé ? Réflexion sur la langue française ». Vous donnez un exemple extraordinaire, un direct de La Rochelle à la télévision. Et puis, on voit un quidam qui exhibe longuement à l'image son t-shirt. On n'a qu'une life. Et c'est vrai, c'est ma life, la life, etc. Et puis, il y a évidemment d'autres mots anglais qui pénètrent la langue. Alors, est-ce que vous pouvez décrire ce processus et peut-être en indiquer des raisons, Alain Borer ?
Oui, alors, c'est un phénomène massif et terrifiant parce que tout s'en va de la même, dans cet effondrement. Il faut distinguer, je crois, plusieurs registres. Par exemple, je distinguerais cinq langues différentes, en quelque sorte, pour nous entendre avec précision et pour décrire le phénomène. Par exemple, vous savez, il y avait le franglais décrit par Etienne dans les années 50. Alors, il y a eu entre la France et les îles britanniques cet échange qui fait que la langue française était parfaitement élaborée en l'an 1000 et au 12e siècle encore rayonnait sur toute l'Europe. Et que l'anglais, pour ne pas parler de l'anglais, qui est une belle langue que nous respectons et connaissons, l'anglais est composé, je me plaise à le rappeler, de, vous savez combien, 63% de mots français.
Oui.
63%, c'est-à-dire 37 000 mots français composent l'anglais, autant que le deuxième dictionnaire de l'Académie française en 1840. C'est incroyable. Alors, je ne parle pas de l'anglais qui, d'ailleurs, refuse de savoir qu'ils ont parlé ou qu'ils parlent français ou que l'anglais serait du français mal prononcé. Il faut distinguer, je crois, d'abord le globish. Le globish, c'est ce qui nous permet de voyager dans le monde entier, d'accord ? C'est « tell me the way to the next whiskey bar », pour dire comme la chanson des Doors. Je passe sur le globish. Il y a deux autres cas que le franglais le globish, c'est ce que j'appellerais l'anglobal et l'angolais. Alors, l'anglobal, c'est un phénomène, voilà qui est la description actuelle. Parce qu'il y a eu, dans le franglais, et depuis 1000 ans, il y a eu tennis, au sens du mot français, tenez la balle. Et on a échangé des mots, je vous envoie comté fleurette, vous me renvoyez flirt, et il y a cet échange des civilisations. J'appelle ça le franglais. Attention, désormais, avec non pas le globish, mais l'anglobal, il y a substitution. Il y a substitution de life.
De life.
Avec, alors, la liste de la substitution est tellement longue et le temps qui nous reste tellement bref que il faut admettre seulement qu'il y a substitution et étouffement. Mais il y a pire. Il y a pire encore que l'anglobal qui, attention, un projet hégémonique réciproque, c'est-à-dire un projet hégémonique, c'est écrit dans les textes des British Council, c'est écrit dans tous les contrats américains, d'imposer la langue anglo-ricaine, mais aussi c'est développé par les autocolonisés. De façon massive.
Oui, c'est ça qui était
par soumission à la langue du maître. Je veux seulement rajouter la quatrième dimension, qui est encore pire que l'anglobal. C'est-à-dire le phénomène de substitution qui est tout à fait nouveau dans l'histoire de la langue. Vous savez pourquoi c'est nouveau? Parce qu'il y a eu, on sait bien, 30 000 mots italiens qui ont été adoptés à la Renaissance, mais ils ont tous été francisés. C'est l'affaire des fleurs de Tarbes de Poland. C'est-à-dire que tous les mots étrangers, dans toutes les langues, sont usinés sur place. Guerra, on a importé guerra, la guerre, on a prononcé avec le mot, avec le E muet. Vous savez que saucisson vient de l'italien à ce moment-là, mais c'est quand même Rabelais qui le transforme, comme Cervella, il a fait Cervella, Rabelais. Alors donc, c'est la fin de cet usinage sur place. Mais je veux insister, je termine sur l'angolais, parce que l'angolais c'est encore autre chose, c'est du petit anglais fabriqué par les gallo-ricains, pour dire comme Régis Debray. C'est-à-dire, les gallo-ricains fabriquent dans la langue du maître pour être reconnus par le maître de l'autre côté de l'Atlantique. Par exemple, vous avez Maisoning, mais aussi des premiers ministres, puis c'est ceux qui sont en première ligne, au fond, pour les nommer. Quand un premier ministre, comme c'est Jean-Marc Ayrault, rassemble la presse pour présenter la silver economy, il n'y a pas un anglo-ricain qui comprend ça. Donc on parle l'anglobal d'abord, mais aussi l'angolais, c'est-à-dire la langue du maître fabriquée sur mesure.
Et vous citez la québécoise Denise Bombardier, « Quand vous, Français, verrez disparaître votre mot « amour », vous comprendrez peut-être qu'il sera trop tard. » Alors Jean-Michel Delaconté.
Il est tout à fait vrai que la question moi, qui me travaille le plus en la matière, sur le globish et l'invasion dont vous parlez, Alain Morin, c'est la servitude volontaire. À mon sens, l'invasion du globish, à mon sens, est plus un symptôme. C'est une réalité, hélas, mais est plus un symptôme que la maladie elle-même. Je pense que le français en tant que tel est une langue affaiblie, un peu malade. Et elle est malade pour un certain nombre de raisons, et notamment parce que nous ne croyons plus en elle. Et ça me semble tragique parce que nous nous mettons en effet dans la position servile de désirer, non seulement d'admirer, de désirer d'appeler la langue du maître. Il faut lui ressembler. Régis Debray, je crois, il parle de snobisme. Il a raison. Il y a du snobisme là-dedans, mais il y a plus que ça.
Oui,
nous avons perdu confiance en nous-mêmes. Et alors, ça, c'est dramatique. Pardonnez-moi, simplement une remarque pour que les éditeurs se rendent bien compte. En mai 68, je n'ai pour ma part souvenir d'aucun slogan en anglais.
Oui, c'est vrai.
Donc ça s'est passé, ça, ce dont on parle, en gros, dans les 50 dernières années. Y a-t-il un lien avec ce dont vous parliez tout à l'heure, d'ailleurs, avec cette espèce de... Enfin, la montée, vous voyez, du spontanéisme, etc. Donc, un peu issu de 68, il faut
quand
bien
même,
dire.
Oui. Hein.
Donc, y a-t-il un lien entre le mouvement de 68, qui avait des qualités par ailleurs, et, d'autre part, la déliquescence de notre langue et l'invasion du globish?
Alors, en tout cas, il y a une ambivalence au sommet de l'État. Le macronisme aime les mots anglais. Pratique la substitution. On l'a vu pendant la campagne, où il n'y avait plus de militants, mais des helpers et des coworkers, des polyvents. Et aujourd'hui, on parle de process qui sont dirigés bottom-up et non surtout pas top-down. Et puis, on ne doit pas dire « nous avons de grandes ambitions », mais « sky is the limit ». De même, nous vivons, paraît-il, dans une start-up nation ou dans une smart nation. Bien, mais d'un autre côté, l'autre jour à la coupole, Emmanuel Macron, président de la République, a tenu un discours pour dire quelles étaient ses ambitions pour la francophonie et le plurilinguisme. Et c'était très intéressant, le plurilinguisme, parce qu'il a dit « il ne faut pas que l'anglais soit la seule langue étrangère apprise par les élèves et les étudiants français. Donc il faut qu'il y en ait d'autres. C'est très important. » Là, on est dans le « en même temps », si vous voulez. Mais en tout cas, il semblerait que naisse une prise de conscience de cette mainmise, non pas de l'anglais, mais d'un certain anglais, en global ou pire encore, et un effort, semble-t-il, entamé pour mettre fin à cet impérialisme, Alain Borère.
Oui, c'est trop de choses à dire. Bon, c'est trop de choses à dire. Par exemple, dans le discours du président Macron à la coupole, il y avait un projet magnifique, celui du château de Villers-Cotterêts. Oui. Quel plaisir de voir que ce château admirable, un des 11 construits par François Ier, soit enfin rénové, alors qu'il était précisément dans la symbolique de la langue française, qui était son abandon depuis une cinquantaine d'années. Et c'est le lieu parfait pour envisager un centre de la francophonie, mais en même temps, c'est un lieu parfait pour symboliser l'échec de l'édit de Villers-Cotterêts, au moment même où l'on abandonne sur tous les fronts ce que précisément recommandait l'édit de Villers-Cotterêts, qui, je vous le rappelle, est la loi la plus ancienne de tout l'arsenal juridique français et qui est toujours en principe en valeur, encore qu'il ait été scandaleusement démoli par la loi Fioraso. L'édit de Villers-Cotterêts recommande tout simplement, comme l'aurait dit François Ier lui-même, de parler le parler maternel français. Alors qu'il commence par l'imposer à tous les commis de la République qui capitulent à Bruxelles. Qu'il commence aussi, premièrement, à l'apprendre à nos écoliers. C'est-à-dire qu'il manque 600 heures d'enseignement de la langue française rien que sur le premier cycle depuis 1960, et qu'il commence enfin par l'étendre en effet à la francophonie au sommet de Dakar. Vous savez qu'au sommet Dakar, en décembre 15, on a fait pour la première fois, parce que les chiffres qui circulent sont des billes visées, le milliard de francophones, ce sont des estimations québécoises de l'an 2000. Au sommet de Dakar en décembre 15, on a enfin établi, disposé dans le rapport Attali qui était éliminé verticalement, disposé de chiffres. Par exemple, sur la projection démographique, on sait le nombre de professeurs de français qu'il faudrait dans les perspectives démographiques de l'Afrique. Et on a choisi de ne pas les financer. Par conséquent, on abandonne en effet le projet de langue française.
Là, on se retrouve aussi dans le cas de cet emballement des droits de l'homme dont je parlais tout à l'heure, parce que il y a des gens qui vous expliquent que chacun doit pouvoir parler comme il veut, sans être bridé par je ne sais quelle règle. Or, ça donne, dans les médias aussi, vous n'en avez pas parlé Alain Borère, des punchlines, des newsrooms et compagnie. Et la loi Toubon est effectivement bafouée tous les jours. Mais je ne suis pas sûr que Jacques Toubon, défenseur des droits, défendrait aujourd'hui sa propre loi, puisque précisément, il en est, les droits de l'homme, c'est le droit pour chacun de dire ce qu'il veut et de puiser ce qu'il a envie de puiser dans, le langage universel.
Je pense que vous avez raison, parce que parler une langue de qualité, une langue française de qualité aujourd'hui, mais attention, c'est terriblement discriminant.
Voilà. C'est élitiste et discriminant.
C'est élitiste et discriminant. Quelle horreur! Donc, il faut aplanir tout ça, brider, et on va même, bien évidemment, jusqu'à châtrer la langue. Mais là, c'est la correction politique qui, elle-même, constitue la marque que chacun doit pouvoir être et s'exprimer comme il l'entend, indépendamment des autres, au fond. C'est-à-dire qu'il y a une surveillance terrible pour que chacun soit prétendument libre. En fait, on ne l'est pas du tout, bien évidemment. On ne cesse d'être incarcéré dans une nécessité de correction comme ça politique qui passe par une castration de la langue elle-même. C'est quand même formidable, quoi. La liberté qui se retourne en servitude.
Mais alors, il y a aussi peut-être autre chose. parce que il me semble que vous avez raison tous les deux, enfin vous le dites très bien, que ce globiche ou cet angle, comment vous dites ?
J'ai dit le global et l'angolais.
Voilà, tout ça c'est la langue du maître, mais d'un autre côté nous vivons à l'âge de la technique. Et l'âge de la technique c'est l'âge où tout est perçu en fonction de son utilité. Donc la langue elle-même change de statut, sa composante civilisationnelle s'efface au profit de sa dimension, de sa dimension instrumentale. C'est une pure et simple fonction. Voilà. Et là, si tel est le cas, alors l'anglais est simplement utilisé comme un espéranto, le moyen, disait Julien Drac, le plus commode et le plus trivial de communiquer avec les autres. Mais donc, il faudrait, si vous voulez, par-delà la critique de cette emprise, de cette mainmise, de cette servitude volontaire, en venir à une réflexion plus générale et plus approfondie, justement, sur cette vision purement utilitaire, fonctionnelle et techniciste de la langue. Alain Borel.
Oui, alors ça, c'est le point principal, la question principale. Écoutez, fondamentalement, il faut comprendre ceci. Je crois que le clivage intellectuel le plus profond, beaucoup plus profond que le clivage politique, c'est celui qui sépare la grammaire de Chomsky de celle de Sapir et Whorf. Je m'explique. On peut déduire de la grammaire chomskyenne, générative, et d'ailleurs peut-être aussi de celle de Port-Royal, on peut déduire un monde plat, fluide, et quand bien même il serait d'extrême gauche Chomsky, ce qui n'a pas empêché de préfacer Faurisson, un monde de la circulation idéale pour l'espace néolibéral. Un monde idéal. Avec au-dessus les idées de Platon qui correspondent. Alors, en revanche, si, des linguistes, ça c'est beaucoup plus fondamental que droite et gauche, parce que des linguistes comme Sapir et Whorf, mais aussi bien sûr Humboldt, ont montré ce que je peux entendre moi-même à l'écoute de la langue. On montré la pensée, les représentations particulières qui s'attachent à une langue et qui, par conséquent, s'étendent à une civilisation. Je voudrais vous donner un exemple. Parce que cela se passe à notre insu. La langue sait sur nous des choses que nous ignorons. Par exemple, la façon dont nous, ce collectif qui, cette oreille collective depuis 1000 ans, en disant 1000 ans, je parle pas comme Mouras, je parle comme le grammairien belge Hansen, qui a choisi de dire « je » en composant le pronom personnel par un « e » muet. Vous vous rendez compte, il y a une part « tu » du « je ». Si vous, par exemple, je vous pose la question sur le plan civilisationnel. Que dit-on lorsque l'on dit « you » en anglais ? J'entends, quelle est l'idéalité de « you » ? En quoi « you » n'a-t-il pas besoin de savoir quel est le nombre, le sexe, la hiérarchie, et de savoir s'il s'adresse à la reine d'Angleterre ou à son cocker ? Quelle est l'idéalité de « you » ? L'idéalité de « you », c'est le customer, c'est le client.
Vous êtes dur, là.
L'idéalité, elle est tout à fait différente du plan réel. L'idéalité, les langues diffèrent par les idéalisations. Regardez, en quoi cela ne correspond-il pas uniquement, alors qu'il y a au contraire, si je suis dans la relation personnaliste de la langue française, un échange de civilisation. Ce qui est en cause, c'est d'ailleurs, Régis Debray le dit dans son livre Civilisation, ce passage d'une civilisation sur une autre.
Oui. Je crois que c'est peut-être la part de vérité qu'il y a dans le romantisme, l'idée d'un génie de la langue. Et voilà ce que la plupart des linguistes aujourd'hui oublient. Et les usagers aussi, puisque précisément, ce sont des usagers. Ouais. Si l'on respectait l'idée de génie de la langue, nous ne considérerions pas que nous sommes des usagers en l'employant. Nous aurions le respect qu'elle mérite et qu'elle demande. Jean-Michel de la Comté.
Le génie de la langue, c'est aussi le terme qu'employait. Vous savez, si vous me permettez justement une analogie ou un rapprochement, exactement. Chateaubriand est assez éclairant. Vous parlez de génie de la langue, effectivement, et génie du christianisme chez Chateaubriand. Le génie, c'est l'esprit. Et en l'occurrence, c'est, j'employais un mot qui maintenant ne s'emploie plus parce que c'est ringard, c'est l'âme. Hein, comme que Rimbaud lui-même emploie, comme ça on tire, le génie de la langue, le génie du christianisme, le génie d'un peuple. Ces catégories-là sont aujourd'hui quasiment discréditées. Pourquoi ? Je me contente ici de poser la question. Il y a quelque chose de lourd et de grave comme perte de soi, je trouve, dans l'abandon de ce terme, de ces termes-là. Oui, je crois qu'il y a le génie de la langue. Alors, ça peut s'expliquer d'une façon historique ou par les linguistes, ce qu'on voudra. Hein. Le rapport, évidemment, au latin, une certaine forme de latin. Un rapport, je crois, ou des rapports avec un territoire. Et enfin... ça semble peut-être étrange et très réac de dire ça, mais je le dis quand même, le rapport à l'Église et à la religion. Et comme tout ça fait l'objet, la religion, la patrie, fait l'objet d'un déracinement, la langue elle-même se déracine. Et les gens sont perdus.
Et vous citez Ponge aussi, je crois.
Ah oui, alors ça.
C'est intéressant de parler de son livre Pour un Malherbe.
Tout à fait.
Il parle, il défend une sorte de patriotisme linguistique.
Un patriote, il dit, il faut être aujourd'hui violemment patriote, et violemment patriote de la civilisation gréco-latine.
Ah oui,
il y va carrément quand même.
Oui.
Et il dit quelque chose d'extrêmement important qui, moi, a soutenu tout mon effort pour mon livre. C'est quand il dit le meilleur service qu'on puisse rendre à la République aujourd'hui, c'est de redonner force et tenue au langage. Et ça, je crois que c'est un impératif essentiel.
Bon, ben, je crois que cet impératif, vous l'avez incarné, développé l'un et l'autre. Et je vous remercie tous les deux. Alain Borer, je rappelle que vous avez écrit aux éditions Gallimard « De quel amour blessé ?» Réflexion sur la langue française. Et Jean-Michel Delaconté, « Notre langue française » chez Fayard. Le livre vient de sortir. Vous trouverez toutes les références bibliographiques sur le site replique-franceculture.fr où l'émission est téléchargeable pendant un an et, écoutez bien, écoutable à vie. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « La Russie d'aujourd'hui ». Mes invités seront Hélène Carrère-Dancausse et Françoise Thomme. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Nochard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Dimitri Scapolan. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.